Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité.
Qu'est-ce que j'ai dit là ?
CO2, mon ami.
Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité.
2,21 gigawatts ?
Denis Chesson.
Mon Dieu !
Mais enfin, c'est quoi un gigawatt ?
Je devais être complètement dans les nuages. 2,21 gigawatts. Comment puis-je générer une puissance pareille, monsieur Edison? C'est impossible, je n'y arriverai pas.
Mais Doc, écoutez, c'est rien. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de plutonium.
Sur France Inter.
Ah bah ça, j'ai pas la réponse pour le gigawatt. C'est pas un truc pour végétariens en tout cas. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie, avec Johanna Cabric à la technique aujourd'hui. Et nous avons préparé l'émission avec Élise Hamchin et c'est Jérôme Boulet qui réalise la dite émission. Notre-Dame brûle et heureusement nous n'avons pas regardé ailleurs. Tout de bec et de cerf vêtu, le couple est parti, laissant le nid qu'il s'apprêtait à emplumer. Le nid, ah bah souvent, si vous voulez, ce sont des anciens trous de boulin, vous savez, ces pièces de bois engagées dans la maçonnerie. Alors ça, c'est idéal pour un nid douillet avec vue imprenable sur la Seine, Paris et les quarts de touristes. Depuis au moins 150 ans, les faucons cresserelles ont signé un bail avec la cathédrale. Et même un faucon pèlerin, d'ailleurs, s'est posé, lui, sur la flèche en 2017. Alors les petits cresserelles à naître sont perdus, les pigeons bisets ont pris le large, les nids sont laissés au bon soin des gargouilles. Elles aussi ont chaud, impuissantes à cracher de l'eau, encourageant les pompiers à les sortir de l'enfer, de ces flammes qui lèchent et mordent de 9 siècles de foie dans l'agonie des chênes et des pierres. Et ce soir-là, Dieu s'est retiré, aurait dit Léon Blois, même les monuments sont mortels. Que criaient-elles ces gargouilles ? Bah, sauvez-nous, oui, oui, mais sauvez-vous aussi de votre brasier matérialiste qui brûle les mains, le cerveau, qui met la nature à genoux. Vous retournez vos flèches contre vous. 200 000 abeilles posées sur la sacristie entrent et sortent à nouveau. Elles n'ont pas de poumons, mais le CO2 les endort et elles ont résisté à tout. Aux vapeurs de plomb fondues, se gorgeant de miel, protégeant leur reine, pompiers de vie de leur propre ruche. On refera, on reconstruira, on refera, dit le jeune compagnon sur son nuage, qui commença le travail il y a 850 ans. Il regardait les os de pierre, les veines du bois, les nerfs de l'acier calcinés. Ah, on n'avait pas de meuleuse, de soudeuse, d'électricité à l'époque, hein, pas de normes ISO 35000, mais le nombre d'or était en nous. Et nous, vous savez, dire les faucons, la reconstruire à l'identique ou différemment, peu nous chaud, comme disent les maçons. Évitez malgré tout donc les boutiques intégrées à la rénovation, hein, ça ferait mauvais genre les marchands du temple. Même brûlée au troisième degré, Notre-Dame, bah, elle reste belle. Et nous, plus tard, eh ben, dans quelques nichées, on refera notre nid sur la cathédrale de Marie parce que le vivant est en nous. Alors nous savons que d'autres cathédrales de nature brûlent, hein, sur laquelle notre avenir est assis, qui ne bénéficient pas d'une telle compassion, et cette fois, nous regardons ailleurs.
La nature, c'est pas nous qui l'avons fabriquée, elle est bien antérieure à nous, nous sommes dedans, bon, on considère que c'est un truc, bon, c'est le décor, quoi. Ben là, je crois que cette sensibilité n'a pas encore complètement éclos, et que pour cette raison, beaucoup d'efforts aboutissent à de très petits résultats.
Des mots assez justes de Jean-Marie Pell, vous l'avez peut-être connu, parce que les hommes, au-delà d'une émotion parfaitement légitime, hein, sont des êtres fascinés d'abord par eux-mêmes, par leurs techniques qu'ils ont inventées et ce qu'ils ont fabriqué. On est plus fasciné par un Concorde que par une Stern Arctique, qui a bien plus d'autonomie de vol d'ailleurs. Mais en fait, tout est intimement relié. La nature, la culture, les pierres, les cathédrales du vivant, le patrimoine sont notre bien commun, jointuré ou non de prière. Et vous verrez, un jour, Esmeralda redansera. Et Et vous le savez, donc Radio France, France Inter et Radio France se mobilisent pour cette cathédrale de Notre-Dame. Donc, événement exceptionnel. On écoutera Gallienne tout à l'heure à 18h. Et puis aussi Radio France avec France Télévisions s'associe à un grand concert, hommage, organisé dans la cour des Invalides à Paris avec l'Orchestre National de France, la maîtrise de Radio France. Donc, n'hésitez pas, c'est ce soir à 21h. Alors, je vous l'avais dit, on va avoir une émission tout extrêmement électrique. On va avoir deux sujets très électriques. On va faire le point sur la voiture électrique avec Philippe Biwix, qui est ingénieur. Et puis aussi, on va regarder les différentes offres d'électricité dites vertes. Bonjour Vincent-Jacques Le Seigneur.
Oui, bonjour.
Bonjour à vous. Alors, vous êtes le directeur du journal des énergies renouvelables. Juste, effectivement, pour nous mettre un petit peu, je dirais, en appétit. D'abord, un grand merci à nos amis de France Bleu Isère. Brûlé, ils savent ce que c'est aussi. Ils sont hébergés par nos amis de France 3. On les remercie vraiment beaucoup aussi pour ce duplex. Quand on parle de nouvelles énergies, peut-être assez rapidement, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'on voit qu'il y a les offres, on va dire, classiques, on va dire d'EDF. Et puis, il y a plein d'autres offres qui ont fleuri.
Oui, effectivement, comme vous le savez, depuis 2007, donc depuis maintenant 12 ans, le marché de l'électricité est un marché ouvert et donc de nombreux fournisseurs apportent leur offre d'électricité aux Français. Et il y a 25 ou 30 fournisseurs qui affichent une offre dite verte.
Et là, on va faire un petit peu. Voilà, c'est un peu ce que ça se complique. C'est pour ça que vous avez fait le point, donc dans ce numéro hors série énergie renouvelable, les offres d'électricité verte. Donc, on va démêler le grain de l'ivraie, comme on dit merveilleusement avec vous. Et puis, je vous propose de commencer. Donc, on retrouve d'ici 3-4 minutes avec la première chanson choisie par Thierry Lupin. C'est parti.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit, tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con,
je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je transformée en passion, qui n'oublie pas la voix lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir, et surtout n'oublie pas. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi. Quand petit con c'est toi, quand petit con.
C'est moi.
Bah oui, Mathieu Chédid, mais on l'est tous, vous avez grand, petit, con, etc. Bah on sent bien qu'on a tous eu des enfants, bah c'est comme ça. Électricité, allez, mode d'emploi.
CO2, mon amour.
Dites-moi, on va au compteur, vous. Qu'est-ce que vous mêlez comme opérage au compteur? C'est parce que moi, ça me laisse pas une grande marge de manœuvre. Ça saute. Je vous le dis, ça saute tout le temps. Bah c'est vraiment ou brushing, ou sono, ou jardin éclairé, ou dinde dans le four. Faut jongler, hein. On fait rarement les quatre en même temps. Et même moi, j'ai peut-être envie de faire mon babyliss avec un fond de Mozart tout en me disant « Où est-ce que mon jardin est joli la nuit ?» et « Miam, miam, il y a une bonne bête dans le four. » Alors le compteur, vous le gonflez, vous en mettez deux, vous me collez un mec qui pédale dans la cave, mais moi je veux qu'il y ait du jus.
Sur France Inter.
Ah oui, et puis avec Muriel Robin, ça nous fait quand même beaucoup, beaucoup de bien. Vincent Jacques Le Seigneur avec nous, directeur du journal des énergies renouvelables en direct depuis France Bleu, Isère, chez nos amis donc de Grenoble et de France 3 qui les hébergent. Le journal des énergies renouvelables, depuis évidemment des années, vous intéressez à toutes ces formes d'énergie. Un numéro hors série, donc celui de mars 2019, les offres d'électricité verte. Alors, on a vu fleurir beaucoup de choses parce qu'en fait, EDF, avec 32,7 millions donc de clients. C'était le chiffre, c'est le chiffre global. Et puis vous avez 7,4 millions aujourd'hui de nos concitoyens qui ont quitté cette offre de EDF. Donc ça fait 23% parce qu'il y a eu ouverture à la concurrence. Faut dire que EDF était à la fois producteur et aussi fournisseur d'énergie. Donc depuis 2007, ce système est beaucoup plus ouvert et on a à peu près 25 fournisseurs et 55 offre, Vincent Jacques Le Seigneur, et nous on voulait faire un peu le point sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai quand on vous dit on a des offres d'électricité verte. Comment ça fonctionne?
Alors, je vais vous l'expliquer. Au préalable, peut-être deux petits rappels qui sont très importants pour la compréhension de cette mécanique. Le premier point, c'est que le tarif régulé, c'est-à-dire le tarif décidé par l'État et que gère EDF, est toujours existant. Et heureusement, c'est une très belle et très grande innovation de l'après-guerre avec la péréquation tarifaire qui permet à tout Français, où qu'il soit sur le territoire, d'acheter son kilowattheure au même prix.
C'est-à-dire que si on habite une ferme qui est à 14 km d'un point, on paiera le même prix, évidemment, qu'en Île-de-France. Ou n'importe où, voilà.
Absolument, et vraiment c'est acquis, il faut le défendre, c'était une grande innovation il y a plus d'un demi-siècle et ça reste une... On aimerait le faire dans d'autres pays, c'est vous dire l'importance de cette innovation. Premier point. Second point, c'est qu'un électron, on ne peut pas le tracer. Voilà, un produit bio, c'est plus facile, un électron, c'est compliqué, donc l'électron qui arrive à votre prise de courant chez vous, quand bien même vous auriez souscrit une offre d'électricité verte, eh bien, il est gris. Il est gris, c'est-à-dire, il vient d'un ensemble d'électrons qui transitent sur le réseau. Ça, ce sont les deux remarques préalables. Alors, en 2008, vous vous souvenez, l'Europe a adopté un paquet climat-énergie très extrêmement ambitieux, visant notamment à encourager les modes de production et de consommation d'énergie renouvelable. Et ils se sont dit, du coup, il faut qu'on arrive à tracer ces électrons quand même, sinon on ne va jamais y arriver. Mmh. Donc, ils ont mis en place un système qu'on appelle les garanties d'origine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une garantie d'origine? C'est dire tout simplement qu'il y a une équivalence entre le kilowattheure qui arrive à votre prise de courant et un kilowattheure qui, quelque part, est produit de façon renouvelable. Dit autrement, vous achetez vos électrons de chez vous qui sont gris, mais votre fournisseur, qui est, je l'espère, un fournisseur d'électricité verte, lui a acheté à un autre pays, un autre fournisseur, un papier qui est une garantie d'origine. Et j'insiste là-dessus parce que c'est deux choses différentes. Il y a une production physique d'électrons d'un côté que vous achetez, et de l'autre côté, un certificat qui garantit qu'il y a une équivalence entre ce que vous avez consommé et ce qui a été produit ailleurs sur le territoire.
Alors là évidemment, c'est extrêmement flou peut-être pour les uns et pour les autres. C'est pour ça que c'est très important que vous nous le détaillez ainsi. Parce que pratiquement toutes les offres qu'on nous présente, c'est, alors vous aurez 10% de moins et c'est de l'électricité verte. C'est pas forcément exactement le cas, et parce qu'on a quand même une majorité de ces aujourd'hui acteurs nouveaux donc sur le terrain qui vont en fait racheter de l'électricité à EDF.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsque ce système a été mis en place en 2009, il avait sa vertu, il avait son intérêt, puisqu'on encourageait ainsi, quelque part en Europe, des modes de production d'électricité renouvelable. Oui. Mmh. Aujourd'hui, il est totalement insuffisant. Je vais vous expliquer pourquoi. Quel que soit le fournisseur, et je ne donnerai pas de nom, un fournisseur d'électricité verte aujourd'hui peut vous garantir, contrat, mais n'importe quel grand, que ce soit Engie, Total, Leclerc, etc., peut vous garantir que c'est une électricité verte, parce que, dans le même temps, il a eu cette garantie d'origine. Mais cette garantie d'origine, elle était mise à partir d'une production qui est peut-être en Norvège. Et c'est là que le bât blesse. C'est-à-dire que je n'assure pas la transition énergétique de mon territoire, alors peut-être pas l'Isère ni la région Rhône-Alpes-Auvergne, mais en tous les cas de la France, lorsque j'encourage les barrages norvégiens, vous le comprenez bien. Mmh. Donc la limite du système de 2009, elle est là. Elle est géographique, c'est-à-dire que on encourage les moyens de production qui sont pas suffisamment près des lieux de consommation et donc on ne favorise pas la transition énergétique, premièrement. Et en plus, il y a un deuxième défaut, c'est que le pas de temps qui a été inscrit dans les textes européens, c'est un pas de temps annuel. Donc, le fournisseur doit juste s'engager à ce que dans l'année, l'équivalence a été produite quelque part en Europe. Autant vous dire que ça encourage nullement les investisseurs localement à mettre de l'argent pour ici construire des éoliennes, là des centrales photovoltaïques ou améliorer des barrages.
Et alors pour le coup, ça coûte évidemment extrêmement cher donc à EDF parce que en fait ces fournisseurs vont racheter à 42 euros le mégawattheure. Donc c'est là-dessus qu'ils vont faire évidemment leur marge. Ils doivent acheter un certificat, vous l'avez dit, donc de garantie. Mais enfin, il va coûter 2 euros, donc 42 plus 2 c'est 44. Et en général, EDF c'est autour de 55 qu'ils arrivent à revendre, c'est ça ou...
Oui, tout à fait. Il y a là encore une disposition qui avait toute sa logique, mais qui aujourd'hui bute un peu sur la réalité des faits, qui est un dispositif qu'on appelle de l'ARENT, de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. En gros, c'est la production dont vous avez parlé que gère EDF. EDF est obligé d'en rétrocéder une partie, le quart, à des acheteurs qui sont X ou Y fournisseurs. Et donc, ils vous la revendent en électricité verte, parce que dans le même temps, ils auront acheté des garanties d'origine, dont je parlais tout à l'heure.
Bon, alors justement, ça c'est intéressant aussi d'avoir donc tout de suite en ligne Emmanuel Soulias, parce qu'il est le directeur général de Enercop. Bonjour Emmanuel Soulias.
Bonjour Denis.
Voilà, donc on est avec vous parce que vous êtes vraiment un des pionniers dans cette électricité qui, pour le coup, est véritablement verte. Alors, il y a à la fois donc ces offres d'électricité verte avec ce numéro hors série d'énergie renouvelable. Vous avez Greenpeace qui a sorti aussi cela. Vous avez aussi l'ADEME qui a fait aussi évidemment formidablement son travail sur ce thème. Donc là, vous aurez vraiment, on peut décortiquer les choses entre ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas lorsqu'on parle de vert. 75 000 sociétaires aujourd'hui donc pour Enercop, on sait que c'est quand même extrêmement militant. Alors aujourd'hui, en fait, vous travaillez avec 240 producteurs, mais ils ne sont pas forcément en Norvège, en Suisse ou ailleurs.
Non, pas du tout. Et du coup, c'est bien la spécificité d'Enercop et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez signalé, Denis, autant Greenpeace que l'ADEME ont qualifié notre offre soit de vraiment verte, soit de premium. C'est-à-dire que notre mode de fonctionnement à nous, c'est d'acheter directement l'électricité à environ 240 producteurs qui produisent de l'électricité d'origine hydraulique, solaire, éolienne, biomasse. Et on accole à cet achat d'énergie les garanties d'origine que ces producteurs émettent eux-mêmes. Donc on n'est pas dans cette dissociation que Vincent-Jacques Leseigneur a pointé du doigt, c'est-à-dire d'un côté acheter de l'énergie grise, c'est-à-dire indifférenciée sur un marché, et de l'autre côté, acheter des certificats verts sur l'autre marché, ce qui relève, il faut le dire, tout de même de la tromperie pour un consommateur lambda. Un citoyen lambda qui veut acheter une électricité verte en pensant naïvement que via cet achat, il développe les énergies renouvelables, il contribue à la transition énergétique, eh bien avec ce système de garantie d'origine, ça n'est pas du tout garanti. Donc notre projet à nous, Enercop, et vous l'avez signalé, c'est un projet coopératif, c'est pas 75 000 sociétaires, c'est 75 000 clients, mais 40 000 sociétaires qui possèdent la coopérative, c'est justement de s'adresser à des consommateurs, des consommateurs qui veulent donner du sens à leur achat d'électricité et qui savent que pour chaque euro versé à Enercop, l'intégralité de cette contribution ira soutenir des petits, moyens producteurs en France, qui investissent dans des projets, qui les rénovent, qui sont souvent détenus par des citoyens, qui soient rassemblés en collectif, en association, par des collectivités qui sont de plus en plus intéressées par le concept de circuit court.
Qui se mettent en économie mixte, etc.
Voilà. Par des PME familiales. Voilà, donc aujourd'hui, le système que développe Enercop, et vous l'avez souligné, les pionniers depuis la libéralisation du marché de l'électricité en France, c'est bien de créer ce lien direct entre les producteurs et les consommateurs, intermédiés par une coopérative à lucrativité limitée, qui n'est pas là pour rémunérer les actionnaires, qui ne fait pas d'évasion fiscale, qui incite tous ses sociétaires à participer à la gouvernance.
Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, c'est évident, mais j'allais presque dire que c'est comme le bio, voilà, mais au moins on connaît la provenance. Si je prends une image là de ce que font peut-être parfois certains collègues, alors attention, hein, dans les 25 fournisseurs, il y en a, alors on peut citer Planète Oui, on peut citer Équateur, il y en a d'autres aussi quand même qui se rapprochent vraiment de ce côté-là, qui vont travailler avec des producteurs d'énergie donc renouvelable. Si je prends une métaphore, je vais acheter une pomme dans une grande surface. Bon, elle a été, il y a eu du glyphosate, elle a eu ses 25 doses de pesticides, etc. Ça s'est passé hors sol, hors saison. Mais à la fin, je vais quand même pouvoir lui coller une petite étiquette bio AB parce que j'aurais acheté des certificats de garantie. C'est un peu ça la mécanique ou je grossis le trait là ?
C'est exactement ça, Denis, et c'est exactement ça dont on parle, et c'est pour ça que je parlais de tromperie sur la marchandise. Il y a un devoir de transparence, de pédagogie, d'explication, d'incitation du citoyen à prendre en charge chaque jour des gestes, qu'il s'agisse de la mobilité, qu'il s'agisse de leurs finances, qu'il s'agisse de l'habitat, de l'alimentation, des vêtements, et qu'il s'agisse de l'énergie, à donner du sens à leur achat de consommation et à savoir exactement où va leur argent. Et c'est la raison pour laquelle on est partie prenante et on a demandé à ce que des acteurs importants comme l'ADEME, que vous avez cité, comme la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, comme le ministère de la Transition écologique et solidaire, travaillent à un label transparent, explicite, simple sur ces offres vertes,
alors,
pour qu'on puisse distinguer ce qui est une vraie offre verte qui contribue directement à la transition énergétique et ce qui est un maquillage que vous venez brillamment d'évoquer au travers de l'exemple de la pomme 36 fois pesticidée.
C'est ça, c'est-à-dire à peu près la même qu'on a celle que la sorcière avait offerte à Blanche-Neige aussi, c'est à peu près la même. Alors Vincent Jacques Le Seigneur, donc là-dessus justement, on a besoin d'offres un peu plus claires. Donc faites-nous s'il vous plaît un petit peu l'inventaire de ce qui est aujourd'hui pour qu'on s'y retrouve un peu mieux.
Ben, finalement, on pourrait dire en rebondissant sur ce que vient d'expliquer Emmanuel Soulias, on pourrait dire qu'on se dirige vers 4 offres de nature différente. Il y a l'offre classique, hein, c'est le mixte électrique français à dominante fossile et nucléaire. Il y a l'offre verte dont on vient de parler, adossée à une garantie d'origine qui... Alors moi, je parlerai pas de ton prix. Je dirais qui rencontre ses limites et qui n'est plus du tout suffisante pour assurer la transition énergétique de la France. Il y a un troisième niveau que l'ADEME appelle maintenant premium. Alors c'est pas encore un label, j'espère que ça va le devenir, qui distingue évidemment les offres d'Enercop, mais aussi de Planète Oui, d'Ilec ou d'Énergie d'ici, de quelques fournisseurs qui eux adossent complètement la production du kilowattheure et la garantie d'origine et donc assure que le producteur il est bien là quelque part sur le territoire national. Et je pense qu'on se dirige, parce que Enercop est bien placé pour le savoir, mais Ilec aussi qui est un autre fournisseur, on se dirige vers un quatrième niveau qui devient très intéressant, qui est l'offre territorialisée. C'est-à-dire que ici, je suis à Grenoble, dans cette belle région, je pourrais acheter mon kilowattheure non seulement en m'assurant qu'il soit bien renouvelable, mais en plus en m'assurant que c'est des moyens de production locaux, de façon à encourager des investissements locaux et donc de l'emploi et donc une activité économique autour de cette énergie qui soit en lien direct avec le milieu de vie où je suis.
Donc ça va être une tendance lourde pour vous, parce que là c'est encore embryonnaire, mais il va y avoir une demande peut-être, ça va jouer comme d'habitude avec le citoyen qui est aussi client.
On y va, et pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a une attente forte. Le médiateur de l'énergie a fait une enquête il y a quelques semaines montrant que 80% des 18-34 ans, 80%, envisager d'adhérer à une offre d'électricité verte, quelle qu'elle soit. Alors avec toutes les limites qu'on a énumérées, mais c'est quand même 80% d'une classe d'âge et des jeunes. Donc la culture, j'allais dire l'opinion publique, est en train de basculer. Secondement, nous avons un encadrement quand même. Nous avons des textes européens et des textes français qui nous dirigent pour 2030 à avoir 40% de notre électricité d'origine renouvelable. Mmh. 40%. Donc il va falloir y aller. Et puis troisièmement, les industriels. Alors, qui sont les gros méchants, ça je comprends bien quand on parle du point de vue d'Enercop, mais il faut aussi se mettre dans le contexte économique global. On va en prendre un exemple pour vous situer la problématique, mais des industriels comme EDF, le pari qu'ils font sur le renouvelable aujourd'hui est complètement incroyable.
Oui.
C'est 30 gigawatts à horizon 2035, si réellement ils le font, et je vois pas pourquoi ils le feraient pas, parce que pour eux c'est un vrai enjeu économique et clientèle, parce qu'ils perdent 100 000 clients par mois quand même, lorsqu'ils auront mis ces 30 gigawatts en production sur le territoire national, et pas ailleurs là pour le coup, fatalement ils seront beaucoup plus proches des offres premium dont je vous parlais tout à l'heure.
D'accord. Oui, donc là, vous parlez bien de gigawatts, pas de gigawatts, comme on a entendu. Donc,
et de gigawatts, oui.
Bien de gigawatts. Lorsque l'on parle, alors peut-être en un mot aussi, là, je dépasse un peu ce sujet, j'allais dire les doigts dans la prise, mais quand on parle de transition énergétique, je sais qu'il faut énormément de pédagogie, parce que ça, les gens pataugent quand même merveilleusement, et on peut pas leur en vouloir. Pour vous, en quelques phrases, une transition énergétique qui pourrait être réussie, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est pas qu'elle pourrait être réussie, c'est qu'elle doit être réussie.
Elle doit. Ouais.
Si nous n'engageons pas maintenant une reconversion radicale de nos moyens de production, de nos moyens de consommation, de notre art de vivre, tout simplement, Denis, vous et moi, on n'en connaîtra pas les pénalités les plus fortes. Mais nos enfants et nos petits-enfants,
ils
très certainement...
Ils sont dans la nasse.
Ah oui, complètement. C'est-à-dire, il y aura des interdictions, il y aura des privations, il y aura tout ce qu'on veut. Alors qu'aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, mais aussi avec la baisse de la consommation, parce que les appareils sont beaucoup plus efficaces, oui. Aujourd'hui, au contraire, ce sont des innovations technologiques, ce sont des emplois, ce sont de nouveaux espaces de liberté, c'est une nouvelle façon de vivre. Enfin, moi, j'ai sur ma toiture deux fois ma consommation annuelle. Et je vous assure que prendre sa douche avec sa propre énergie, c'est un plaisir que je conseille à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est pas des privations. Aujourd'hui, ça peut être un grand bonheur et une belle chance pour notre société. Après-demain, ce sera trop tard.
Alors, vous pouvez bien sûr vous retrouver hein, tous ces éléments dans ce numéro hors série, les énergies renouvelables, le point sur les offres vertes d'électricité. Vous avez donc le site de Greenpeace aussi sur celui de CO2 Mon Amour. Vous avez donc celui de l'ADEME. Juste très rapidement, sur ces 25 fournisseurs, on va dire qu'il y en a combien qui tiennent, on va dire, la route vraiment vert, quoi.
Quatre qui sont, dont on puisse garantir aujourd'hui que la totalité de leur offre est, comme l'a expliqué Emmanuel Soulias, adossé à un producteur. Et c'est important parce que le producteur, on n'a pas parlé de l'aspect économique. Si vous allez acheter sur le marché, eh bien le marché, il a ses hauts et ses bas, mais il est plutôt tiré vers le bas, en raison de la concurrence. Si vous voulez que les producteurs d'Enercop se multiplient, il faut que vous leur garantissiez qu'ils vont avoir un contrat stable sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Et à ce moment-là, oui, ils viendront et ils investiront et vous aurez de nouveaux moyens de production locaux.
Eh bien écoutez, un grand merci Vincent-Jacques Le Seigneur. Un tout petit mot, Emmanuel Soulias, à rajouter, très rapide.
Non, mais Vincent-Jacques Le Seigneur a très bien décrit les enjeux. Je voulais juste rappeler que, et il faut toujours se le rappeler, hein, que l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas.
Exactement.
Donc pour atteindre cette transition énergétique aussi, il faut intégrer ces éléments d'efficacité énergétique et de sobriété que le scénario des gigawatts décrit avec beaucoup de précision. Et puis peut-être aussi repréciser que, ça a été dit, hein, l'aspect économique et l'aspect environnementaux sur ce sujet, comme sur tout un tas de sujets d'actualité, se rencontrent fortement. Ce sont les mêmes enjeux. Et rappelez peut-être qu'Enercop est le seul de ces 25, 26, 27 fournisseurs à avoir un statut coopératif. Et je pense que c'est important de regarder cette aspect-là.
Merci beaucoup, Emmanuel Soulias. Grand merci, Vincent-Jacques Le Seigneur. Et puis, merci vraiment à nos amis de France Bleu Isère et de France 3 donc, qui vous ont hébergés. On va poursuivre, là, cette fois-ci, on va faire le point avec Philippe Biwik. Ça va être autre chose, mais en raison de l'électricité, ça va être sur la voiture électrique.
Complexité.
Oui, quand je vous dis qu'ils avaient les deux doigts dans la prise, ça c'est sûr. Et encore, à cette époque-là, en 1984, c'est pas vrai, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, on les rechargeait pas, c'était donc téléphone.
Je la prends et je la pétache, d'accord ?
CO2, mon amour.
Il y a deux conditions. Un, je la veux tout de suite, et deux, je la veux avec le plein.
Denis Chesson. Ah,
je la veux avec le plein, sinon je casse la vente.
C'est une voiture électrique, monsieur ?
C'est électrique, ça ?
À 100%. Pas de bruit, pas de pollution, et pourtant, 80 chevaux sous le capot.
Il y a combien d'autonomie ?
Environ 200 km. Si vous roulez pépère.
Sur France Inter.
Est-ce que j'ai une tête à rouler pépère, hein?
Alors après les offres d'énergie verte électrique, voici maintenant notre voiture électrique qui rentre dans ce studio, c'est formidable. Quelques questions à se poser quand même sur la voiture électrique au regard de très nombreux mails que j'ai un peu emmagasinés depuis un certain temps, de tweets, de messages reçus sur... Bah alors voilà, qu'est-ce que ça vaut, voiture électrique, entre pollutions diverses et variées. Philippe Biwix est ingénieur, c'est un homme qui a écrit d'ailleurs un ouvrage qui vient de sortir, Le bonheur était pour demain, mais il avait fait aussi L'âge des low-tech dans la collection Anthropocène du seuil. Et donc, alors, dès que l'on parle, soyons très clairs, dès que l'on parle d'énergie, c'est toujours le remplacement d'un problème, je reste poli, par un autre, quoi qu'il arrive. Alors après, il s'agit de prioriser, effectivement, les embêtements des uns et des autres. Enfin, c'est toujours comme ça à la base. Alors, au lieu du moteur thermique, on l'a compris, donc un moteur électrique. Aujourd'hui, ça représente 1% du marché. Ça va utiliser une matière première, des matières premières différentes, comme le lithium, comme le cobalt, pour les batteries. Alors, on pourrait parler des conditions d'exploitation aussi, qui font débat. Certains diront que après le chauffage électrique, la climatisation, eh bien le véhicule électrique, c'est aussi un nouveau relais de croissance pour EDF qui pourra justifier la construction de nouvelles centrales. C'est encore un autre débat, mais bon voilà, faut le dire. Et aujourd'hui quand même, Philippe Biwix, 40% de l'empreinte environnementale d'un véhicule électrique provient de la batterie qui aurait une durée de 10 ans.
Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, elle va effectivement perdre un peu de capacité ou de performance avec le temps. Il y a aussi le fait que l'exigence de performance dans les usages de mobilité va être très élevée. Et donc, il y a aussi une possibilité de seconde vie pour du stockage dans le bâtiment. Donc, c'est un petit peu l'idée.
C'est-à-dire qu'on pourra stocker nos énergies, si possible, renouvelables. C'est ça, quand même, l'idée.
Voilà, disons, plus on va aller vers des énergies renouvelables, plus il va y avoir besoin de stocker, d'équilibrer entre la demande qui est variable d'un côté et l'offre qui est intermittente. Et donc, il y a du stockage entre les deux. Et peut-être, cette deuxième vie des batteries de voitures pourrait servir dans des usages domestiques. Mais c'est encore un peu prospectif pour l'instant.
Parce qu'on dit que les gaz à effet de serre, donc induits pour la fabrication de cette voiture, l'usage aussi est la fin de vie, donc pour un véhicule électrique. Alors aujourd'hui, on dit que ce serait deux fois inférieur à celle d'un véhicule thermique. Mais vous avez d'autres données qui vont vous dire, en fait, au départ, c'est pas vrai, c'est-à-dire que ça consomme beaucoup plus. Mais évidemment, sur le cours de la vie de la voiture électrique, ben, ce sera moins.
Alors c'est affreusement compliqué. Et donc, effectivement, en fonction des règles ou des hypothèses de calcul qu'on va prendre, c'est très différent. Mais en gros, il y a deux paramètres importants. Le premier paramètre, c'est comment est-ce que l'électricité va être produite. Alors là, on peut se réfugier vers, on est en électricité nucléaire ou renouvelable, et donc on est bas carbone, et donc tout va bien, mais encore faut-il regarder ça. Et il y a aussi l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'on a mise au départ dans la fabrication des batteries, c'est assez énergivore. Et cette énergie grise, elle a aussi un contenu carbone, parce que on peut avoir produit les batteries en Chine à l'électricité au charbon, ou les avoir produits en Allemagne avec peut-être une électricité qui est en moyenne un petit peu moins carbonée. Et donc ça, c'est le premier paramètre, c'est quelle énergie j'ai mis dedans, quel CO2 j'ai émis, qu'est-ce que j'ai dépensé déjà pour fabriquer la voiture. Puis ensuite, le deuxième paramètre qui est énorme, c'est combien de kilomètres cette voiture va rouler. Donc pour faire mon émission par kilomètre, par combien je vais diviser. Et donc là, comme on a, par rapport à la voiture thermique, une énergie bien plus importante à mettre au départ pour les batteries, eh bien ça va dépendre de l'usage de la voiture électrique. Si on a une voiture électrique qui fait 5000 km par an parce que c'est la deuxième voiture et puis on a voulu se faire plaisir, ça vaut absolument pas le coup, et on va avoir des émissions de CO2 qui seront énormes. Plus importante, qu'en voiture thermique. Et si on roule peut-être, 30 000 km, 40 000 km par an, parce qu'on aurait des voitures totalement partagées, partageuses à la Jérémy Rifkin, et ben là, peut-être effectivement, le coût par kilomètre va être meilleur.
Ce qui veut dire que c'est valable pour les livraisons, c'est valable pour les taxis, par exemple?
Alors, ça serait valable sans doute pour effectivement un certain nombre d'usages de véhicules professionnels. Alors il y a aussi un autre paramètre, c'est que il n'y a pas que le carbone. À iso émission de carbone, on a aussi la question de la pollution locale, donc les émissions de particules, etc. Donc il peut y avoir un certain nombre d'endroits, dans les hypercentres urbains, etc., où les usages électriques, je pense à des petits camions de livraison, à éventuellement des bus, ou à des véhicules, peut être intéressant parce qu'on va réduire localement la pollution.
Mais alors si on nous vend, Philippe Biwix, des voitures, donc des chars d'assaut, comme on en voit maintenant beaucoup dans les villes, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que c'est valable vraiment pour les petites voitures, la voiture électrique?
Alors le problème c'est ça, c'est qu'en fait on a une tendance à assimiler aujourd'hui voiture électrique et voiture propre. Alors déjà, une voiture n'est jamais propre. Quand bien même son électricité serait propre, ce qui n'est jamais complètement le cas, quand bien même la fabrication serait propre, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas, parce que vous pouvez imaginer que la métallurgie, la plasturgie, etc. sont des activités quand même
des grands dévoreurs et des grands polluants.
Absolument. Rien que le fait de rouler avec des pneus sur la route, c'est un tiers des microplastiques qui finissent dans l'océan chaque année. Voilà, en fonction de la taille de votre pneu, vous êtes plus ou moins polluant, donc vive la bicyclette à nouveau. Mais la question c'est ça, c'est de dire on est dans des voitures, on croit aller vers des voitures propres, alors on électrifie, mais on électrifie aujourd'hui des monstres. Des voitures qui sont beaucoup trop lourdes, beaucoup trop puissantes, beaucoup trop performantes. Alors j'entends les voix qui disent bah « oui, mais c'est génial parce que ça va rendre la voiture électrique hype d'avoir aussi des belles voitures de sport performantes et en fait, je sais pas quoi, de la Formule 1 électrique ». Mais non, c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'il serait beaucoup plus simple pour réduire les émissions de carbone d'aller d'abord faire des objectifs de sobriété, de frugalité en termes de poids, en termes de vitesse et de performance, et aller vers effectivement des petits pots de yaourt éventuellement effectivement électriques pour partie, et qui rempliraient une grande partie de nos usages et de nos besoins, en tout cas de la seconde voiture, donc ça ferait déjà des chiffres significatifs. C'est beaucoup plus efficace que d'aller équiper des monstres comme le Tesla ou autre, quoi.
Alors, on rappelle bien sûr les bienfaits d'une voiture électrique, c'est-à-dire que les gains, c'est quand même le bruit, ce sont les gaz à effet de serre qui n'existent plus, c'est la chaleur dégagée en ville, donc évidemment pas mal d'avantages. Si on regarde que le pot d'échappement, on se dit « ah bah oui, évidemment, c'est un gain immédiat ».
Mais oui, la question des particules est extrêmement importante. Alors en même temps, on se dit aujourd'hui la pollution, elle est surtout dans des endroits très urbains, voire hyper urbains. Et c'est peut-être là justement où l'usage de la voiture est le moins intéressant et le moins pertinent. Et on pourrait le plus facilement passer à du transport en commun, de la marche ou du vélo. Donc après, quand on est plutôt en périurbain ou en campagne, les émissions de particules sont moins critiques. Donc on n'a pas vraiment besoin de répondre à ce sujet-là.
Alors, Philippe Biwix, moi, je me permets de vous faire entendre Evo Morales, qui est le président, en fait, bolivien. Et ça, c'était en 2010 sur le lithium.
Nous avons besoin de partenaires, pas de propriétaires du lithium. L'État ne permettra jamais qu'on perde la propriété ni le contrôle face aux entreprises. Ceci n'est pas négociable pour les sociétés qui veulent venir investir dans notre pays.
Alors le lithium, la moitié donc des réserves mondiales, c'est la Bolivie et le Chili. Vous en avez en Australie, au Tibet, en Chine, en Russie, aussi aux États-Unis. Et quand même, la consommation, Philippe Biwix, ça a triplé ces 10 dernières années.
Alors il y a eu des atermoiements d'abord sur le lithium, qui se sont un peu réduits avec le temps, parce qu'il y a eu aussi des explorations et des découvertes d'un certain nombre de ressources, qui sont pas forcément aujourd'hui en exploitation, mais dont on pense qu'elles pourront raisonnablement devenir des réserves, c'est-à-dire être exploitables avec les technologies que l'on possède et avec les prix de marché qui sont pratiqués. Et aujourd'hui, les inquiétudes se portent plus effectivement sur le cobalt. Alors, pour résumer un peu, on va dire, dans une voiture électrique, une petite voiture électrique avec 75 kWh par exemple, de stockage de batterie, donc qui permet de faire quelques centaines de kilomètres, on va dire, on a de l'ordre de 15 kg de lithium, et puis on va trouver peut-être de l'ordre de 5 kg de cobalt pour les technologies qui contiennent du cobalt. Mais là, on rentre dans des questions de performance de la batterie, de vitesse de charge, de vitesse de décharge, de durée de vie, etc. Le lithium, effectivement, aujourd'hui, 60% est produit à partir des saumures des salars. Il y a 50% des ressources identifiées qui sont dans le triangle Bolivie-Argentine-Chili. Aujourd'hui, la Bolivie produit quasiment pas, c'est surtout l'Argentine et le Chili.
Des salars, ce sont des grands lacs de sel, quoi.
Voilà, c'est des dépôts de sel, en fait, et le lithium est un des sels parmi d'autres. C'est d'ailleurs, on a de la co-exploitation, on exploite aussi la potasse, par exemple, pour faire des engrais dans les mêmes exploitations que le lithium. La production aujourd'hui est plutôt de l'ordre de 90 000 tonnes pour l'année dernière. Si on voulait passer 100% électrique et qu'on y ajoute les bus, les camions, des stockages éventuellement résidentiels, etc., il faudrait multiplier par 30 la production. On arriverait à 1 million de tonnes, 2 millions de tonnes par an. Et là, les ressources à date identifiés sont de l'ordre de 50 millions de tonnes. Donc ça fait tourner la machine à plein régime, on va dire, pendant 20, 30 ans, j'en sais rien, quelques décennies, peut-être un peu plus si on va chercher plus loin. Après, on peut aller chercher le lithium dans l'eau de mer, hein, c'est des questions d'énergie, ça dépendra de ce qu'on veut y mettre, et à nouveau de l'énergie grise qu'on y trouvera. Mais globalement, y a une vraie difficulté aujourd'hui. Il faut savoir d'ailleurs que le lithium n'est pas du tout recyclé. Hein, donc le lithium des petites batteries, aujourd'hui, c'est essentiellement utilisé dans les batteries de nos smartphones, nos ordinateurs et autres. Ça vaut pas le coup de le recycler d'un point de vue économique. Donc on recycle le cobalt, mais pas le lithium. C'est à peu près 5 dollars du kilo et ça vaut pas. On n'arrive pas à produire comme ça. Donc il faudrait quand même, si on utilise de plus en plus de lithium dans les voitures, qui sont donc des usages qui seront plus massifs et plus importants, il faut à minima avoir des obligations réglementaires de réutilisation, de réincorporation de lithium recyclé pour obliger d'un point de vue réglementaire et pas juste laisser faire le marché, parce que en fait c'est trop cher, pour s'assurer au moins qu'il sera correctement réutilisé, réemployé, recyclé.
Alors, nous avons en ligne Arnaud Pigounides, qui est un des fondateurs de Rétrofutur, et ça nous intéresse parce qu'on va parler ce qu'on appelle de rétrofitting, autrement dit de l'électrification. Alors l'électrification, ça peut être valable pour les bus, pour les péniches, pour en fait pour toutes sortes de véhicules, et aussi donc pour les voitures. Arnaud Pigounides, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors racontez-nous s'il vous plaît, techniquement c'est possible d'électrifier aujourd'hui, on va dire, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde ?
Alors techniquement c'est possible depuis même pas mal de temps, hein, puisque l'objectif c'est d'enlever le moteur thermique pour mettre un moteur électrique, enlever le réservoir, enlever le pot d'échappement et mettre des batteries et un petit calculateur, un petit ordinateur qui permet de gérer les batteries et de gérer le moteur.
Alors où en est l'homologation aujourd'hui de cela ? Parce que ça n'existe pas encore, sauf peut-être dans d'autres pays, hein, l'Allemagne, je crois l'Italie, les Pays-Bas sont déjà dessus.
Alors, il faut savoir que le rétrofit existe dans plus de 30 pays actuellement, qu'on a identifié notamment les États-Unis, tous les pays anglo-saxons, l'Allemagne, l'Italie qui sont dotés de législation pour le rétrofit. Et nous sommes en train de faire changer la loi, puisque nous avons eu l'accord du ministère des Transports, donc de la ministre Madame Elisabeth Borne, pour trouver une solution, pour avoir le droit de faire du rétrofit.
Alors, Arnaud Pigounides, évidemment, la question, c'est combien ça va me coûter, cette histoire-là? Parce que c'est intéressant, parce qu'on va garder donc la caisse, donc on comprend bien que d'un point de vue écologique, c'est quand même pas mauvais du tout. On garde déjà l'existant, mais combien ça va me coûter? Et aussi, quelle autonomie je peux avoir?
Alors, effectivement, c'est très bon pour l'économie circulaire, puisqu'on, en gros, on dépollue un véhicule qui est tout à fait en droit de rouler, tout à fait en état de rouler. Donc, c'est déjà une belle chose. Et après, en fait, tout dépend de l'usage. On parlait beaucoup de la batterie tout à l'heure, et tout dépend des usages. En fait, si vous avez besoin de faire 10 km par jour avec votre véhicule, vous n'avez pas besoin d'avoir l'équivalent de 200 km de batterie. Donc, le coût dépend vraiment de la batterie, dépend aussi de l'approvisionnement. Et notre objectif, c'est d'arriver à un coût de conversion à partir de 10 000 euros.
D'accord. Et là-dessus, on a une prime ou pas ?
Alors, on espère avoir une prime, au moins l'équivalent des constructeurs, hein, mais si on a une prime, par exemple, de 3 ou 4 000 euros pour convertir une voiture, ça ferait un rétrofit à 6 000 euros.
Qu'est-ce que vous en pensez, donc, Philippe Biwix ? Parce que c'est pas inintéressant, non plus, cette affaire.
Ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est d'abord de changer seulement le moteur. Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui la lutte gouvernementale, le soutien aux différentes possibilités d'aller vers des voitures de moins en moins polluantes, on est toujours un peu sur le principe de la prime à la casse et puis de la prime pour acheter une voiture.
Ouais.
Or finalement, comme dirait mon collègue ingénieur Laurent Castagnède, quand vous avez un problème de chaudière, vous changez pas toute la maison, vous changez que la chaudière.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Arnaud, pour demain ?
Pour demain, c'est d'avoir des villes plus vertes, plus agréables à vivre et plus partagées, et surtout de pouvoir avoir le droit de changer un moteur de voiture thermique.
Thermique en électrique.
Exactement.
Voilà.
Prendre du plaisir sur la route.
Et on vous renvoie donc sur le site de Rétrofutur. Merci Arnaud Pigounides. Et dans votre tour radio, dans votre smartphone, où vous voulez, ben voilà, la voici. On y va, ma petite Lou.
Pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sign, find the way, let me as I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much,
in the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us, must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent to life together, in a night I'll give away. Yes, in a night I'll give away. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. You can see me come a mile away. You can see me come a mile away. Or you can see me come a mile away. 'Cause I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some say find the way, but me, I say come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us.
Sur France Inter, c'est Au de mon amour, c'était Mademoiselle Doyon, Too Much. Bon, je vous l'ai pas dit parce que c'est vrai que vous l'avez compris, France Inter, on est en tête, on est très content, donc à la fois on est heureux et aussi avec beaucoup d'humilité. Puis bah pareil pour C'est Au de mon amour, vous nous placez aussi à la tête de toutes les radios généralistes le samedi entre 14h et 15h. Et quoi donc? Ah non, on n'a pas fini.
Père, faut pas se gêner là. Vous avez pas eu la queue?
Vous faites la queue pourquoi exactement?
Pourquoi qu'on fait la queue? Pour l'essence, cette bonne blague.
C'est Au de mon amour.
Oui, mais moi j'ai une voiture électrique. Alors, je ne suis pas concerné par votre file d'attente.
Sur France Inter.
Oh, le pied absolu.
Alors, voiture indispensable, on s'en doute bien. 6 à 7 personnes ont besoin de cette voiture absolument au quotidien aujourd'hui. Voiture pour les autres, prolongement de soi. Voiture, liberté, mais aussi galère. Donc, Philippe Biwix, aujourd'hui, donc 1 milliard de voitures dans le monde. Et moi. Voilà, donc qu'est-ce que l'on peut dire sur ce sujet?
La question, c'est comment est-ce qu'on passe du monde d'aujourd'hui à un monde presque sans voiture, de la même manière qu'on voudrait aller vers un monde presque zéro déchet, vers un monde quasiment circulaire sur les ressources, etc. Eh bien, c'est en évidemment essayant de développer les usages, etc. C'est un petit peu ce qui se passe avec les combats des uns et des autres sur les pistes cyclables, que sais-je. Mais c'est aussi en allant vers des voitures de plus en plus légères, de moins en moins rapides, de moins en moins performantes, bridées. Alors, ça paraît un peu liberticide, évidemment. Hein. Alors, on revient avec l'écologie liberticide, on enfile tout de suite la veste kaki et nous voilà partis.
C'est ça.
Mais en fait, non. Je veux dire, il suffit de revenir à la définition de la liberté du XVIIIe siècle, et c'est celle qui n'empiète pas sur la liberté du voisin.
Alors, c'est pour ça, en fait, que votre ouvrage est passionnant. Le bonheur était pour demain, que vous venez de sortir donc au Seuil, dans la collection Anthropocène, parce que là, ce sont justement les rêveries d'un ingénieur solitaire. Donc, ce sont un peu justement ces différentes balades que vous avez effectuées. Vous avez effectué dans le passé et aussi donc dans l'avenir, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que ça va rompre avec l'expansion mondiale du modèle occidental, d'une mobilité individuelle? Et vous rappelez d'ailleurs dans votre ouvrage, que en ce qui concerne donc cette signature, que le diable est toujours dans le détail, parce qu'il s'agit bien de produire de manière plus favorable, autrement dit moins nocive, mais en aucun cas de stopper la destruction en cours.
Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la logique de l'efficacité, on va devenir plus efficace, plus efficient, on va émettre moins de CO2 par euro de valeur ajoutée, par euro de PIB, etc. Donc c'est toute la question du découplage espéré par les économistes, hein, cette logique de dire finalement, je veux que la croissance continue, et puis par contre, il faut que les émissions de CO2 baissent,
qu'on utilise moins d'énergie, etc. Voilà,
et donc il faut faire un découplage, non pas relatif, mais un découplage absolu, c'est-à-dire plus je vais produire, moins je vais consommer, et ça, en fait, on n'y arrive pas. On voit bien que c'est les émissions de CO2 et la consommation d'énergie vont un petit peu moins vite que la progression du PIB, donc il y a un découplage relatif, c'est vrai, mais il n'y a pas de découplage absolu. Et même la grande révolution des énergies renouvelables, je vous prends les chiffres, alors les derniers chiffres de CBP qui publie ça chaque année, un très joli tableau Excel pour ceux qui veulent y passer leur week-end, donc c'était 2016-2017, pour donner juste un exemple sur l'électricité, la consommation, la production électrique a augmenté à peu près de 600 TWh, c'est-à-dire milliards de kilowattheures au niveau mondial entre 2016-2017. À peu près 2%, c'est ce que ça augmente chaque année. Bon, c'est normal, les choses s'électrifient, etc. C'est 600 TWh, donc c'est à peu près la production française, pour faire simple, c'est 500 et quelques. C'est 600 TWh, il y en a 300 qui ont été apportés par l'éolien et le solaire additionnel. Génial, formidable, grande révolution en cours. Hein. On installe bien plus de capacités aujourd'hui de panneaux solaires que de centrales à charbon. Et les 300 autres térawattheures, l'autre moitié, ça a été apporté par le charbon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas, l'énorme déploiement des énergies renouvelables qu'on voit, parce que ça fait quand même plus 15, plus 20% par an.
Absolument, ouais.
Donc, c'est une réalité avec cette logique de, vous savez, de grid parity, c'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, on arrive à installer des panneaux solaires dont le prix au kilowattheure est même inférieur au prix de production d'une centrale à gaz ou à charbon. Donc, on arrive à atteindre ce niveau-là. Ça dépend un peu où on les installe et du niveau d'ensoleillement, etc. Mais ben, ce truc-là, malgré ça, en fait, on n'arrive pas à suivre la courbe de croissance.
Alors, je reprends quand même les rêveries d'un ingénieur solitaire, votre livre. Alors, Philippe Biwix, et si le bonheur était quand même pour demain?
Alors, ça sera pas plus mal parce que ça permettra, dans cette logique de résilience, ces perturbations, ce 21e siècle qui s'apprête à être un peu compliqué quand même pour un certain nombre de paramètres. Bon, bah, finalement, moins je dépends des autres, moins je dépends de matières premières produites dans 50 pays différents, moins je dépends du pétrole, etc., mieux je me porte quand même a priori. Donc, cette logique un peu d'essayer d'être un peu plus maître de notre destin et finalement, avec une bicyclette et un bon réseau de réparateurs et quelques fabricants de chambres à air, on est plus maître de son destin qu'avec une voiture autonome dont les datas seront stockées, je sais pas où, au Groenland ou en Finlande, par une multinationale californienne. Donc, on a effectivement besoin de faire ça. Et je pense qu'on a les moyens, tout un peu le titre de mon livre, un peu provocateur, d'être plus heureux, c'est-à-dire d'aller vers une civilisation du plein emploi, vers une civilisation plus apaisée, où on retrouve peut-être la rue et les enfants peuvent jouer à nouveau sur les places et dans les rues, où la question du bruit qu'on mentionnait tout à l'heure sera résolue. Et voilà. Le seul moyen, c'est ça. C'est un peu l'effet d'exemple, c'est-à-dire que tant qu'on reste avec notre système, qu'on dit « moi, je touche pas à mes kilomètres parcourus par personne et par an, etc. », eh bien, effectivement, on ira à la table des négociations avec la Chine et l'Inde sans avoir grand-chose à en tirer.
Il y a des chemins, hein, quand même.
Il y a plein de chemins, mais ça serait tellement, tellement plus simple si on avait un soutien de la puissance publique réel, un véritable engagement. Et je sais que même dans les gens qui y travaillent, il y a des engouements, mais on est tous enchâssés dans nos systèmes, dans nos organisations, on n'ose pas bouger. Il y a des choses incroyables à faire. Imaginons, prenons le zéro déchet qui aujourd'hui est un engouement incroyable. Entre le petit magasin en vrac qui a ouvert et puis qui fait des petites formations avec 7, 8, 10 personnes motivées pour apprendre à faire ses cosmétiques tout seul, que sais-je. Et puis, imaginons la région Aquitaine ou Île-de-France qui dirait, moi je lance un zéro déchet dans tous les lycées, dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises publiques de la région, ça aurait quand même une autre tronche et l'effet des multiplicateurs serait sans doute formidable.
Et ben, un grand merci à vous Philippe Biwix. Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire. On est parti de la voiture électrique et on arrive donc sur demain. Ben voilà, on va essayer de se le construire comme on peut les uns et les autres, cas à cas, avec des chocs, des chaos divers et variés. Puis aussi, j'espère, avec quand même des petits bouts de bonheur qui doivent traîner. Anthropocène au seuil. À très bientôt Philippe Biwix.
Merci Denis, à bientôt.
Et puis un numéro de téléphone, hein, 01 56 40 40 35, c'est le répondeur.
Oui, bonjour Denis, c'est Pierre du Tarn. Je vais pouvoir de nouveau vous écouter puisque maintenant la saison de chasse à courre est terminée. Donc nous avons lutté pendant plusieurs mois et certains d'entre nous vont être accusés d'obstruction à la chasse et devoir payer 1 500 € d'amende au veneur. Tout est merveilleux dans ce monde-là, n'est-ce pas Denis? Et ça c'est dans une forêt du Tarn, la forêt de la Grésigne, pas loin de Penne du Tarn. À bientôt, bonne émission.
Oui, c'était une forêt de verrier, d'ailleurs la forêt de Grésigne, on utilisait le bois, c'est pas très loin de Cordes et d'Albi. Un autre message.
Port-la-Nouvelle est un petit port de la côte méditerranéenne à 70 km de Sète. On y importe principalement du pétrole et on y exporte aussi du blé dur. C'est aussi un site exceptionnel en bordure du parc régional de la Narbonnaise qui jouxte la réserve naturelle de la petite île de Sainte-Lucie. Des étangs entre terre et mer accueillent des migrateurs avec pour célébrités locales les fameux flamants roses. Ils sont aussi le lieu d'activité pour des petits pêcheurs qui perpétuent la tradition de la pêche à l'anguille et d'autres poissons. Hélas, un projet pharaonique du conseil régional, équivalent en investissement à Notre-Dame-des-Landes, menace ce petit écrin. Dans un délire de croissance injustifiable, il décide de tripler l'activité de ce port d'ici 2030, alors que l'Occitanie possède déjà un port à 7. Nous demandons à l'État d'arrêter ce projet et au conseil régional de travailler un autre projet moins impactant pour le littoral. Nous lui demandons aussi de réorienter les 500 millions prévus d'investissement pour aider les petits pêcheurs, les petits paysans et toutes les activités permettant de relocaliser l'économie.
Ben, cette fois-ci, c'est bon. Ah oui, cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Un grand merci donc à Johanna Gabric à la technique aujourd'hui, Elisa Mchin, avec qui on a préparé l'émission, et Jérôme Boulet, donc, qui l'a réalisé, Anne Gouzon, qui nourrit les sites, donc vous en avez de très très nombreux. Vous avez aussi sur le Twitter, chez Sous, CHEI2SOUX, vous avez plein de choses, donc allez-y, il y a pas mal d'informations aussi. 01 56 40 40 35, c'est le numéro donc pour le répondeur. Et puis que vous dire, le podcast, la rediffusion, 5h, 6h, et après les petits bateaux, demain, ce sera La Tulu, mon petit loup.
CO2, mon amour, avec le WWF. Ensemble, agissons pour stopper le réchauffement climatique. Rendez-vous sur www.fr.